Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 6 mars 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors cette semaine, on commence par parler de problèmes de rouille sur des Ford F-150 qui débarquent tout juste chez les concessionnaires.
Oui, effectivement. Donc, le F-150 qui est très populaire, qui pour lequel on a de la misère à souffrir à la demande, eh bien, c'est le journal de Détroit, le Detroit Free Press, ouais, qui a rapporté cette nouvelle-là. Donc, des véhicules qui sont sur la route, dans certains cas, depuis quelques semaines seulement. Donc, c'est assez inquiétant. Et les propriétaires se plaignent de présence de rouille sur les essieux et d'autres pièces mécaniques. Donc, c'est rien de très, très rassurant. On a parlé un peu plus tôt cette semaine, toi et moi, dans le live Facebook de la Grosse Brune, comme quoi Ford, des fois, se dépêchait de commercialiser, de remplir les cours, ouais, de ses concessionnaires un peu à la hâte, certains véhicules. Ça avait été le cas de l'Explorer, par exemple. Bon, et là, ben, ça semble être un exemple de plus. Est-ce qu'on aurait mal protégé des intempéries certaines pièces? Visiblement, c'est inquiétant en ce qui me concerne.
Mais à la différence d'un Mach-E ou d'un Explorer qui était complètement nouveau, le F-150 utilise les mêmes, ouais, pièces mécaniques. Ouais. C'est pas comme si c'était quelque chose qu'on venait de développer. L'habillage est nouveau, on a modifié quelques éléments, l'habitacle, mais la base même du véhicule demeure la même. Alors, on s'explique mal pourquoi, là, soudainement, il y a des pièces qui rouilleraient et alors que ce n'était pas nécessairement le cas dans les années passées. Ou c'était le cas, mais on ne l'avait pas noté. Oui. Parce que y a rien de nouveau au niveau sous-bassement du côté du Ford F-150. Alors ça, c'est d'autant plus curieux.
Et là, ben, comme toujours, on se place dans la peau d'un propriétaire qui a attendu depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, son exemplaire, qui a payé 75 000 pour son pick-up, et là, quelques semaines plus tard, la rouille apparaît. C'est décevant. C'est décevant.
Wow, absolument. Dans un autre créneau, Porsche Taycan, on en a parlé souvent à l'émission, mais là, on vient de dévoiler la version, on ne peut pas nécessairement appeler ça familiale, mais enfin bref, qui a les allures d'une voiture familiale. On l'appelle la Cross Turismo et elle est magnifique.
Ben, magnifique, je ne sais pas, mais en tout cas,
Moi, je suis un fan.
C'est un look particulier.
J'adore. Personnellement, je n'arrête pas de la regarder.
J'aime beaucoup les familiales aussi. Ça me paraît très chargé comme look, mais bon, effectivement, comme tu le mentionnais, on a parlé beaucoup de la Taycan qui est un succès jusqu'à présent. Et là, ben, on arrive avec une version peut-être un peu plus pratique là, de la Taycan parce que bon, les places arrière n'étaient pas nécessairement très, très spacieuses, le coffre non plus. Donc là, on arrive avec un hayon et tout. Donc peut-être que pour une famille dont les revenus sont assez élevés, ça peut devenir une alternative intéressante. Mais sinon,
je vois surtout ça comme je m'excuse l'expression, mais comme un halo car au même titre qu'une Audi,
oui,
RS6.
Oui.
C'est une voiture électrique, bien sûr, mais on ne l'achètera pas nécessairement pour son côté pratique, mais pour le facteur exotique que ça représente.
Oui, mais en même temps, comme une RS6, c'est un bel exemple. Tu sais, c'est le genre de voiture où on peut placer un coffre de toit et aller en ski en ayant suffisamment de place pour les bagages. Donc, ça peut être... c'est pas tout le monde qui veut aller en ski en Range Rover, là.
Ben, c'est un peu, ça rappelle un peu les pubs que Dodge faisait avec la Magnum à une certaine époque.
Ouais.
Voiture que j'aime particulièrement, tu le sais. D'ailleurs, on va parler en deuxième partie d'émission à notre ami Benoît Lavigne qui lui va venir nous parler d'une voiture Mopar mythique. Il va avoir beaucoup de choses à dire sur cette voiture-là parce qu'il la connaît à peu près par cœur. Il s'agit de la Plymouth Superbird qui est caractérisée par cet aileron qui accroche pratiquement les fils électriques. Alors, on va revenir sur cette auto-là. Troisième nouvelle, ça, c'est intéressant. Il s'est passé sous le radar une action collective qui a terminé, qui s'est soldée, en fait, par une facture de 1,8 million de dollars pour Nissan au Québec.
Oui, donc c'est nos collègues du Journal de Montréal qui ont sorti cette histoire-là ces derniers jours. Donc, les Québécois qui auraient acheté ou loué une Nissan Versa des années 2007 à 2012, ben auront droit à une prime allant de 70 jusqu'à 115 $ là, donc un crédit. Et non, ce n'est pas concernant la transmission à variation continue, c'est plutôt concernant les ressorts, une défectuosité des ressorts hélicoïdaux. Donc, la firme LPC Avocat est allée devant la cour et c'est le résultat de cette action collective-là. Donc, Nissan qui s'est fait taper sur les doigts.
70 par voiture, on arrive à 1,8 million de dollars. Ça prouve qu'ils en ont quand même vendu
pas mal. Ils en ont vendu quelques-unes,
puis il y a probablement des gens qui n'ont plus ces voitures-là depuis au moins 10 ans et qui vont recevoir un petit chèque.
Et certaines sont probablement à la casse.
Ah oui, c'est ça. Exactement. Mais bon. Alors, c'est drôle parce que là, tout ça survient au moment où Nissan débarque avec une nouvelle Versa sur le marché qui ne s'est pas beaucoup vendue dans les trois premiers mois de commercialisation.
J'en ai vu une cette semaine. Je pense que c'était la première que je voyais. Elle avait un autocollant là, d'un atelier de carrosserie. Donc, c'était probablement un véhicule de courtoisie pour les clients. Ouais. Modèle de base blanc avec les enjoliveurs. Donc,
On dit qu'on en aurait vendu pour environ une centaine pour les trois premiers mois de commercialisation au
c'est
Québec.
C'est timide, là, pour un...
Mais il faut comprendre qu'il restait beaucoup d'inventaire de Nissan Sentra 2020 qu'on liquidait à des prix dérisoires, ce qui veut dire que la Versa devenait soudainement peu intéressante. C'est d'ailleurs la voiture que je présenterai mardi prochain à l'émission de Salut Bonjour, 8h45, pour ceux qui veulent voir la chronique. Je présenterai la Versa 2021 en détail.
Bon, intéressant. Sinon, on mentionne quand même, cette semaine, Antoine, tu as signé une chronique pour le Guide de l'auto et le Journal de
Montréal.
Avec
un fond de nostalgie.
Avec un fond de nostalgie, on aime bien ça. Donc, en photo principale, une photo d'époque scannée, on aime ça. Ouais. Et tu relates ta participation, ou une de tes premières participations à un match comparatif du Guide de l'auto qui mettait en confrontation plusieurs voitures compactes. Et c'était en 1999, voilà.
Et j'aime le fait que tu penses que c'est une photo scannée parce que je suis beaucoup plus paresseux que ça. J'ai photographié avec mon téléphone une photo.
Oui, c'est ce que j'entendais par scanner, là.
Mais oui, en fait, j'ai commencé à participer au Guide de l'auto en 1997. Et ça, c'est pratiquement 2 ans plus tard où on m'avait invité pour un match comparatif du Guide de l'auto de l'édition 2000. Et on faisait un match comparatif entre 12 berlines compactes de l'époque.
C'est impressionnant, là, comparer 12 véhicules là, sur le plan logistique, sur le plan technique.
Ah, c'est quelque chose.
C'est vraiment... C'est quelque chose. De réunir tous ces véhicules-là au même moment, de pouvoir les essayer, comptabiliser les résultats, c'est impressionnant. Là.
C'est impressionnant, d'autant plus qu'à cette époque-là, faut savoir que la Focus arrivait sur le marché. On nous avait envoyé une voiture directement des États-Unis. Elle était plaquée du Michigan.
Il y avait beaucoup de nouveautés.
La Jetta était une nouveauté. La Protégée venait d'arriver complètement renouvelée. Daewoo et Kia débarquaient sur le marché en même temps avec la Nubira et la Sefia, deux voitures qui ne sont pas passées à l'histoire. la Sentra ne faisait pas partie du match parce qu'elle allait être renouvelée 6 mois plus tard. Et donc, c'était une des rares voitures qui n'était pas présente avec la Suzuki Esteem qui, elle aussi, était en fin de carrière. Prochainement remplacé par la Suzuki Aerio. Alors, mais sinon, 12 voitures. Et il n'y a que GM qui avait refusé de participer au match avec une Cavalier ou une Sunfire, si bien que le Denis Duquet, qui était le maître d'œuvre de cet événement-là, qui s'était même chargé des sandwichs pour l'heure du lunch, était allé louer chez Location Delvan une Cavalier blanche, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire, qui n'avait pas terminé bonne dernière dans le match comparatif, puisque c'est un autre produit GM qu'on avait considéré comme le pire du lot, la Saturn SL qui était sur place. Quoique avec le recul, je peux te dire qu'une Kia Sefia, ça pesait pas... C'était pas nécessairement...
C'était pas les gros chars,
voilà.
Je suis content de voir que plus ça change, plus c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, c'est toi qui fais les sandwichs pour tout le monde.
Oui!
Et que certains constructeurs automobiles font preuve d'originalité pour ne pas fournir un véhicule.
Ne pas fournir un véhicule, mais
quelques années plus tard.
Dans notre manche.
Ben oui. On a deux manches chacun, donc ça fait beaucoup de cartes. Voilà. Ça fait beaucoup de cartes.
Alors, vous verrez ça dans le prochain guide de l'auto 2022. Ce que je retiens de ce match-là, c'est que c'était pour moi une de mes premières expériences sur piste à Saner. On avait passé beaucoup de temps sur le circuit à rouler les voitures, faire des tests d'accélération. Et je raconte une petite anecdote. Jacques Duval, qui s'était présenté sur le site avec une Plymouth Crawler à l'époque, m'avait laissé conduire cette voiture-là sur le circuit à Saner. Alors, j'en garde un bon souvenir, même si, dans le fond, la voiture n'était pas aussi impressionnante que ce qu'elle avait l'air.
Qu'elle en avait l'air, voilà, parce que stylistiquement parlant, c'était spécial.
Voilà.